Sommes heureux d'avoir dans notre assemblée deux prêtres de l'Inde, du Kerala, qui viendront d'ici 2 ans se mettre au service de notre diocèse, le père Jomi et le père Joseph, qui pour l'instant apprennent le français pendant 2 ans à la Cato de Paris. Mais ils font de grands progrès, vous verrez. Nous accueillons aussi les sœurs de Marie, Mère de l'Église, qui viennent de Moissac, que sans doute certains, plusieurs d'entre vous connaissent. Je n'ai pas encore la chance de connaître ce haut lieu de pèlerinage, de passage. Voilà, et bien ensemble, nous célébrons la résurrection de Jésus, comme chaque dimanche. C'est important justement de célébrer cette victoire du Christ. Nous en avons tellement besoin. Et toute la liturgie de ce jour, de cette fin d'année liturgique, nous parle justement de la résurrection, celle du Christ et qui est prémisse de la nôtre. Alors entrons dans cette rencontre en demandant la grâce d'être justement affermis dans notre foi, dans notre espérance et notre charité, parce que la charité, c'est le chemin le plus sûr pour aller au ciel. Alors entrons, oui, dans cette rencontre, en reconnaissant combien nous avons besoin encore et toujours d'être pardonnés de la miséricorde de Dieu, reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir « Tu es un scélérat. Toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi. « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affirmera et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez de faire ce que vous vous ordonnerons. Que le Seigneur reconduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre
esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent, « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Acclamons la parole de Dieu. Le meilleur est devant nous, toujours. C'est une parole que j'avais entendue dans une retraite. C'était probablement un dominicain, comme on en a eu souvent à nous prêcher. Le meilleur est toujours devant nous. C'est réconfortant. Et je pense, oui, qu'il est très utile de se la rappeler souvent, cette parole. Le meilleur, c'est bien sûr la résurrection et la vie éternelle avec Dieu. C'est la foi de l'Église que nous allons proclamer et même chanter tout à l'heure. Alors comme tout ce qui est répétitif, on risque de le dire machinalement. Et surtout, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est en latin, c'est peut-être plus difficile pour certains de penser à ce qu'ils disent. En tout cas, c'est ce que nous allons proclamer. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. J'attends. Seulement, il y a attente et attente. Est-ce que j'attends la vie éternelle comme on attend son tour dans une salle d'attente médicale? Ou est-ce que je l'attends comme on attend le jour de son mariage, de sa profession religieuse, de son ordination, ou même tout simplement le jour de retrouvailles tant désiré? Je n'ai pas trop eu le temps d'aller voir les dictionnaires de latin, mais il me semble que, enfin je sais en tout cas que expectare en latin, ex ça veut dire hors d'eux. Donc c'est une attente qui nous met un peu hors de nous-mêmes, qui doit nous mettre en mouvement, un mouvement intérieur. Ce n'est pas l'attente passive dans la salle médicale. Oui, l'attente vraiment chrétienne de la vie éternelle, c'est une attente pleine de désir. C'est la vertu d'espérance, c'est ça. Attente pleine de désir, vertu d'espérance. Une attente qui s'appuie sur la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est la fin de l'acte d'espérance que j'espère vous pratiquer de temps en temps, que vous pouvez trouver, même sur Internet certainement, et en tout cas dans des livres de prière, hein, parce que tu l'as promis et que tu es fidèle à tes promesses. Voilà, l'espérance s'appuie sur la fidélité de Dieu à ses promesses et une confiance ferme en sa grâce. En sa grâce, c'est-à-dire en son aide, en son soutien, en sa vie offerte, qu'il ne peut manquer de nous donner chaque jour pour parvenir au ciel. La révélation de cette vérité de foi, de la résurrection et de la vie du monde à venir, a été progressive dans le peuple juif, nous le savons bien, comme l'ensemble de la révélation du reste. Dieu était pédagogue et il ne nous livre pas tout de suite, mais il s'adapte à nous pour dire ce mystère. Et quand nous arriverons au ciel, eh bien nous aurons encore plein de choses à découvrir. Dieu merci. Peu à peu, les Juifs les plus fervents pressentent que l'alliance et l'intimité avec le vivant, celui qui n'est que vie, le vivant, comme l'appellent les Juifs, l'Éternel aussi, mais cette alliance et cette intimité ne peuvent être anéanties avec la mort. Ce serait insensé, ce serait absurde. Que Dieu tisse avec nous un lien aussi fort et puis plus rien. Alors plusieurs psaumes manifestent déjà cette espérance en une vie au-delà de la mort. Par exemple, ce psaume 15e, que je cite, « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Le psaume qui d'ailleurs, par saint Pierre, sera compris, lu aussi comme une annonce de la résurrection de Jésus, mais aussi la nôtre. Et pour les Hébreux, le corps n'est pas une prison de l'âme, comme souvent chez les Grecs, mais la personne humaine, c'est le corps animé. Donc une vie plénière auprès de Dieu appelle, demande la résurrection des corps eux-mêmes. Cette espérance en la résurrection va se manifester particulièrement, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, lors de cette persécution d'Antiochus Épiphane dont nous avons entendu parler dans la première lecture. Et c'est précisément cette foi en la résurrection qui soutient, nous l'avons entendu, c'est absolument explicite dans ces quatre témoignages que nous avons entendus de ces jeunes gens qui préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi, justement. Et c'est la foi, l'attente, l'espérance en la résurrection qui soutient leur courage et leur fidélité. Ces martyrs ont la certitude de ressusciter pour une vie éternelle avec Dieu, puisque justement ils préfèrent mourir pour lui rester fidèles, donc par amour pour lui. Foi en une résurrection non pas éthérée, mais bien concrète, une résurrection charnelle, puisque l'un des frères déclare « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi je les méprise, et c'est par lui, le ciel, que j'espère les retrouver. » Cette terrible persécution aura paradoxalement pour effet de renforcer, la foi en la résurrection. Dieu ne peut abandonner ses fidèles. Et ce psaume 15e que je citais tout à l'heure continue ainsi. Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Donc se priant, parce que la prière ouvre les yeux du cœur. La prière, c'est se mettre en disposition de recevoir la lumière de Dieu. Donc ce priant, je ne sais pas à quelle époque exactement ce psaume a été écrit, mais vous voyez déjà très clair sur justement ce don de Dieu, cette fidélité, cette logique de Dieu, de l'amour qui ne peut pas réduire, faire retomber dans le néant l'amour qu'il a tissé avec ses enfants. Dans l'évangile de ce jour, comme dans bien d'autres passages d'ailleurs, Jésus affirme clairement aussi la résurrection. Il annoncera aussi sa propre résurrection. Et si les Sadducéens, sûrs de leur logique implacable, nient la possibilité de la résurrection, mais c'est parce qu'ils ont une fausse conception de cette résurrection qu'ils pensent, avec leur petite raison bien limitée comme la nôtre, qu'ils la conçoivent, cette résurrection, comme une restauration de la vie présente, de la vie actuelle. Alors que, c'est ce que Jésus nous dit, elle inaugure la vie éternelle. La résurrection, inaugure un mode de vie totalement nouveau et de relations nouvelles entre les personnes et avec Dieu. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à la résurrection, dit Jésus, ne prennent ni femme ni mari. Ça ne veut pas dire, Jésus ne le dit pas Ainsi, ça ne veut pas dire que ces liens, justement, d'amour et d'amour tout particulier et conjugaux qui ont été tissés pendant la vie retournent au néant aussi, comme s'ils n'avaient jamais existé. Bien sûr que non. Mais on ne se marie pas, dit Jésus. Pourquoi ? Parce que la communion conjugale, qui est école de l'amour trinitaire, qui est image déjà, image imparfaite, mais qui tend justement à progresser. Mais cette communion conjugale, qui est se mettre effectivement à l'école de l'amour trinitaire, eh bien sera comblée enfin, arrivera à maturité plénière, sera comblée par cet amour de Dieu dont nous serons remplis. Dieu sera tout en tous, nous dit saint Paul. Alors cette espérance, peut-être serait-il utile de rappeler cet acte d'espérance que je vous invite effectivement à prier de temps en temps, tellement nous avons besoin d'espérance aujourd'hui, comme à bien d'autres époques d'ailleurs. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras par les mérites de Jésus-Christ ta grâce en ce monde, et si j'observe tes commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu es fidèle à tes promesses. Donc il y a deux dimensions dans l'espérance. Il y a cette attente pleine de désir des biens éternels que Dieu nous promet, si effectivement nous ne le lâchons pas. Et il y a cette confiance ferme en sa grâce, en son soutien pour ce monde-ci, pour nous garder sur le bon chemin. Et c'est justement cette grâce dont nous avons tant besoin, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est ce que saint Paul souhaite et affirme aux Thessaloniciens, qui eux aussi, il n'est resté que 3 semaines chez les Thessaloniciens, mais en 3 semaines, eh bien, il a fait un travail en profondeur déjà, puisqu'il dit sa confiance qu'ils vont tenir bon avec la grâce de Dieu. Et il leur souhaite cette grâce. Le Seigneur, lui, est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Le mal, c'est moins la persécution en tant que telle, parce que elle est là, et Jésus nous a prévenu qu'il y aurait toujours de la persécution, qu'elle soit, évidente, extérieure, ou qu'elle soit plus sournoise, elle est toujours là. Parce que la vie chrétienne, la foi chrétienne, la bonne nouvelle de l'Évangile, est toujours provoque le monde qui s'enferme dans son péché, si souvent. Le Seigneur lui est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal, que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance pour le Christ. Voilà, donc saint Paul sait qu'il faut l'attente de Dieu, il faut lui demander cette endurance, cette persévérance, compter sur sa grâce. Ce dont les Thessaloniciens ont besoin, c'est du réconfort du Seigneur pour affronter la persécution et tenir bon dans la durée. Et saint Paul demande aussi leur prière, comme fait notre pape si souvent. Il sait qu'il a besoin de la prière et de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il nous demande si souvent de prier pour lui. C'est ce que faisait déjà saint Paul, prier aussi pour nous, frères. Pourquoi ? Bien pour surmonter les obstacles de ceux qui, des pervers, comme la traduction nouvelle, de ceux qui mettent des obstacles à l'expansion de la parole de Dieu. Espérance, alors oui, elle est vitale. Désirer les biens éternels, réactualiser dans notre cœur cette soif, ce désir des biens éternels, garder les yeux fixés sur le meilleur qui est devant nous pour ne pas se laisser enfermer dans les réalités terrestres qui auront une fin. Le ciel et la terre passeront, nous l'avons chanté. Tes paroles ne passeront pas. Accueillir dès aujourd'hui les réalités divines qui ne passeront pas dans notre condition concrète, corporelle. Laissez Dieu envahir tout notre être. Notre corps aussi est saint, il est sacré. Il est le temple de Dieu. Et il faut que justement cette présence de Dieu en nous, eh bien, anime tout notre être, y compris corporel, puisque notre corps est appelé à la résurrection, à cette glorification. Et puis cette deuxième dimension donc de l'espérance, compter sur la grâce de Dieu pour ne pas se laisser décourager, démobiliser à cause du combat spirituel inhérent à notre condition présente, marquée par le péché, par les structures de péché, hélas, et par les persécutions. Oui, et bien demandons cette grâce les uns pour les autres, cette grâce de cultiver l'espérance, de la demander et de la cultiver, de faire ce qui dépend de nous aussi pour la garder. Le meilleur est toujours devant nous. Amen.